Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Bienvenue dans cet espace dédié à l'information économique sur Radio de la Paix. Nous poursuivons avec notre expert Faustin Onozon les explications sur la notion d'endettement et ses conséquences sur le développement d'un pays. Ça sera dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale. Mais avant, dans le lexique économique, vous aurez les explications de certains termes comme les institutions multilatérales, le solde du commerce extérieur, l'encours de la dette et la balance commerciale. Et puis, vers la fin de cette émission, les tendances de la bourse avec quoi Brice, merci de choisir Radio de la Paix pour vous informer.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Les institutions multilatérales.
Pour pouvoir mieux comprendre ce terme d'institution multilatérale, il faut d'abord expliquer le multilatéralisme, qui, il faut le savoir, est un système de relations internationales qui privilégie les négociations, les engagements réciproques. Ce sont des accords qui s'établissent entre plus de deux pays dans le but d'instaurer donc des règles communes. Ce sont des accords internationaux qui sont négociés entre plusieurs États ou organisations internationales. Alors, parler d'institution multilatérale renvoie à la coopération entre trois États au moins, dans le but d'instaurer des règles communes.
Le solde du commerce extérieur.
Entendez par solde du commerce extérieur la différence entre la valeur des exportations et celle des importations entre deux pays ou deux zones.
L'encours de la dette.
L'encours de la dette correspond au stock des emprunts, autrement dit, le montant total de ces emprunts-là. Les emprunts, il faut le savoir, sont des sommes d'argent qui vous ont été accordées par une structure financière. Parlant ici de l'État, ce sont donc l'ensemble des dettes de l'État vis-à-vis des structures financières ou de ses partenaires bilatéraux ou multilatéraux.
La balance commerciale.
La balance commerciale est la différence qui est établie en valeur monétaire entre donc les exportations et les importations de biens ou de services dans une économie ou sur une période donnée. Généralement, c'est une année.
Regard sur la gestion économique nationale.
La gestion de l'économie nationale avec toujours Monsieur Faustin Onozon, expert en économie, en intelligence économique. Merci donc de votre présence, Monsieur Faustin Onozon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlions d'endettement la semaine passée et vous avez défini comme étant un mécanisme qui permet d'aller emprunter de l'argent, c'est cela?
Tout à fait.
Et vous avez insisté aussi que l'État est amené à s'endetter.
Bien sûr.
Pour ses investissements. Voilà, il faut créer des écoles, des hôpitaux et bien d'autres infrastructures pour son développement.
Tout à fait.
Voilà. Et rappel aussi, 70%, c'est donc le maximum par rapport au PIB hein, que les pays membres de l'UMOA, donc l'Union monétaire ouest-africaine, peuvent donc s'accorder. Sinon, dépasser cela, on commence à s'inquiéter. Justement, nous allons revenir sur la place de l'endettement dans la politique macroéconomique d'un pays. En quoi c'est un élément important?
Oui, l'endettement est vraiment important dans le cadre de la gestion de la production nationale. Vous savez, le taux de croissance, c'est la variation d'une production nationale. Or, si vous estimez, par exemple, que vos recettes ne peuvent pas vous permettre d'atteindre tous vos objectifs, mais vous êtes obligé de vous endetter. C'est-à-dire d'aller vers le capital nécessaire pour pouvoir mettre sur pied vos investissements. Et c'est la variation positive de ces investissements qui va entraîner aussi une variation positive de la consommation. Et cette variation positive de la consommation va aussi entraîner une variation positive du solde du commerce extérieur. Voilà. Et dès lors où on met l'accent sur ces différents paramètres macroéconomiques, mais il va de soi qu'on s'endette. Et sans endettement, si on n'a pas les moyens requis, si nos recettes ne peuvent pas nous permettre d'agencer nos dépenses, mais il est important de s'endetter pour atteindre nos objectifs macroéconomiques.
Alors, l'objectif, c'est la croissance du pays. À quel moment on peut évaluer justement le niveau donc, d'efficacité de cet endettement-là pour voir si le pays, justement, croit par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé pour un pays comme la Côte d'Ivoire?
Mais il y a trois paramètres qu'il faut prendre en compte nécessairement. Il y a l'investissement lui-même, il y a la consommation, et puis il y a le solde du commerce extérieur. C'est-à-dire les exportations moins les importations. Lorsque vous avez un investissement à une période N, à la période N plus 1, cet investissement doit varier. Il doit varier. Il doit, par exemple, passer des zéros peut-être à 5 ou 10%. La consommation aussi doit varier. Et le solde du commerce extérieur aussi, terre à terre, hein, doit varier. Et la somme, la moyenne de ces différentes variations va vous donner une variation, j'allais dire, de la croissance économique. C'est cette somme-là qui va vous donner le niveau que vous avez atteint en matière de gestion de votre production nationale. Et justement, si cette croissance est positive, c'est-à-dire largement positive, c'est que les fonds que vous avez pris quelque part, qui ont fait l'objet d'un endettement de votre part, vous ont permis de relancer votre économie. Mais c'est quand il n'y a pas de relance de cette économie que ça pose polémique.
Bon, pour le cas ivoirien, justement, 2010, nous sommes en 2022, l'observateur que vous êtes au plan économique, les emprunts du pays, est-ce que pour vous, ça a été des emprunts efficaces et c'est une politique bien orientée?
Je ne sais pas s'il y a un mot qui est plus important qu'efficace, mais c'est un endettement qui a été cohérent, qui a été correct à mon sens, qui a été, j'allais même dire, plus qu'efficace. Imaginez-vous, en 2011... Le gouvernement actuel a démarré avec un taux de croissance de moins de 4%. Et en 2012, ce taux de croissance, on a atteint un taux de croissance assez important. C'était presque un taux de croissance à deux chiffres. Il avoisinait les 8%, c'était même au-delà des 8%. Et depuis cette date-là, jusqu'à maintenant, hormis 2020, où il y a eu un taux de croissance de 2%, on n'est pas allé en deçà d'un taux de croissance de 6%. Mais c'est extraordinaire.
Le citoyen qui vous écoute va se dire, c'est vrai, le taux de croissance dont vous parlez positif chaque année, en quoi cela se ressent dans mon quotidien?
Et d'abord, le citoyen lambda, c'est de lui qu'il s'agit. Dans le quotidien, il y a d'abord les emplois. Et vous allez constater qu'on ne peut pas parler d'un taux de croissance macroéconomique qui est positif s'il n'y a pas d'emplois qui sont positifs, c'est si le nombre d'emplois n'a pas augmenté. On ne peut pas aussi parler d'un taux de croissance largement positif, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, si la consommation n'a pas augmenté. Mais ça veut dire que, certainement, quelque part, le citoyen lambda y trouve pour son compte. C'est vrai qu'il y a des indices de développement humain qui mesurent, justement, ce partage de la richesse nationale. Et même nonobstant ces indices-là, je ne crois pas que le citoyen lambda soit au bas de l'échelle. Et c'est vrai que c'est purement macro, c'est purement général. Mais il y a des politiques internes que l'État fait et qui sont des politiques de redistribution du revenu. Par exemple, dans le cadre de notre politique économique, je parle de la Côte d'Ivoire, je peux aussi parler d'un autre pays. Justement. Comme c'est le cas d'espèces, il y a ce qu'on appelle une autre forme de redistribution du revenu qui est les revenus pour pauvres, par exemple.
C'est cela.
Voilà. Ce sont des fonds qui sont alloués aux pauvres d'une manière ou d'une autre.
Est-ce que la récente décision d'augmentation du salaire des fonctionnaires participe de cette politique-là, de redistribution donc, de la richesse, éventuellement?
Mais d'une manière ou d'une autre, ça aussi on peut le dire. Mais c'est une politique économique et financière. C'est-à-dire, dans le cadre de cette politique économique, si les fonds qu'engrange l'État ne sont pas mis à la disposition de la population d'une manière cohérente, il va de soi même que cela n'est pas d'impact positif sur la variation positive de la production nationale. Mais il faut bien les distribuer pour que ceux qui en bénéficient puissent consommer. Voilà. Et donc, je voudrais même d'ailleurs féliciter l'État pour être allé jusque-là. Je parle de la politique d'augmentation des salaires, par exemple. Attendons de voir. Et je pense que ça aura un impact largement positif sur le niveau de la consommation. Et pour ma part, et si c'est un impact positif sur le niveau de la consommation, cela devrait réjaillir sur le taux de croissance macroéconomique à la fin de l'année.
Mais il n'y a pas de risque d'inflation. Par exemple, le pouvoir d'achat s'augmentant des fonctionnaires maintenant, les autres opérateurs vont se dire, ben tiens, il faut qu'on augmente le loyer, il faut qu'on augmente ceci, parce qu'il y a une partie de la population qui a un salaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelques risques à ce niveau?
Non, je pense qu'il appartient maintenant au pouvoir public de contrôler.
De contrôler tout ça.
Sinon, dès lors, il n'y a pas eu une création, j'allais dire, exceptionnelle de monnaie. J'estime pour ma part qu'il n'y a pas de difficulté majeure. On n'a pas de problème de devise pour dire qu'on va aller rechercher des devises quelque part. Tout ça, ce n'est pas sur le plan intérieure. C'est une redistribution de revenus, mais quand on redistribue, mais cela aussi a adossé un certain contrôle.
Alors, il se pose aussi une question, hein, cette politique d'endettement qui amène l'État justement à aller chercher ces emprunts-là en dehors du pays, justement s'endetter auprès des structures financières sur les marchés internationaux. Donc on estime que le coût justement de ces emprunts étant, puisque les monnaies étrangères sont élevées en devises, il y a des risques pour donc nos pays africains. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oh, d'abord, je le disais tantôt, hein, s'endetter à l'intérieur, c'est bon, mais s'endetter à l'extérieur, ce n'est pas aussi mauvais. Et lorsque vous vous endettez, vous faites entrer les devises. Et lorsque vous faites entrer les devises, vous renforcez la valeur externe de votre monnaie. Voilà. Donc, il y a un double avantage. Non seulement vous avez l'argent pour pouvoir développer vos opérations financières, sinon économiques, mais en même temps, vous renforcez la valeur externe de votre monnaie. Donc pour moi, s'endetter à l'étranger n'est pas du tout mauvaise chose, bien au contraire.
Mais quand il faut rembourser, on rembourse toujours en devise aussi.
Oui, on rembourse en devise. Mais c'est une question de politique. Et puis c'est une question de négociation. Il y a même des fonds qu'on peut rembourser en monnaie nationale. Ça dépend de la manière dont vous avez mené vos opérations. Et puis, c'est vrai qu'il y a des fluctuations monétaires qui se font. Mais il y a aussi une couverture. Vous pouvez vous couvrir face à ces fluctuations monétaires. Ce sont des techniques financières qui existent. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'endettement, à mon sens.
Il ne faut pas avoir peur de l'endettement, mais intéressons-nous à l'encours de la dette, surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire. Certains observateurs estiment que cet endettement, le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire, on parle de plus de 21 000 milliards de francs CFA, cela risque de plomber à terme notre économie. Est-ce que pour vous, il y a quand même un regard sur le niveau d'endettement et comment, éventuellement, essayer de gérer cela?
Ouais, je dirais même que le montant que vous donnez, il y a eu même une augmentation de près de 19% de 2021 par rapport à 2022.
Ouais.
Mais tout dépend d'une programmation de notre économie.
Mm-hmm.
Nous, on veut atteindre un objectif. Et si l'objectif passe par là, il va de soi qu'on passe effectivement par là pour pouvoir réussir. Et puis, au risque de me répéter, j'ai toujours dit que quand on s'endette, on investit. Quand on investit, on attend un retour sur investissement. Mais ce retour sur investissement est perceptible déjà par le taux de croissance macro. Si on allait vers un taux de croissance macroéconomique qui baisse d'année en année jusqu'à devenir un taux de croissance nul, mais j'allais dire que cet investissement n'a aucune importance, cet endettement n'a aucune importance. Bien au contraire, il est fait pour pouvoir renverser les tendances économiques et financières. Vous voyez un peu? Alors, donc l'endettement d'un pays dépend un peu de ses objectifs. Objectifs en matière de consommation, objectifs en matière d'emploi, objectifs en matière de gestion de la balance commerciale. Voilà. Et puis objectifs aussi en matière de développement des investissements directs étrangers. Parce que ceux qui viennent avec l'argent, c'est aussi une forme d'endettement qui ne dit pas son nom. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas nous qui remboursons les IDE, mais toujours est-il que ce qu'ils apportent comme fonds est nécessaire pour la gestion financière de notre pays. Parce que ces fonds-là viennent aussi conforter la valeur externe de notre monnaie. Donc, l'un dans l'autre, tout est important. Alors, je pense qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Et puis, il y a des ratios, il y a des principes. La Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint les 70%. D'ailleurs, en fin mars 2022, on était à 49,2%. Contre près de 51% en fin mars 2021. Il faut dire qu'en 2022...
Il y a eu un effort de régression. En fait.
Voilà, mais on a bénéficié de ce qu'on appelle en économie le rebasage du PIB. C'est-à-dire que notre économie a eu d'autres appuis, d'autres paramètres qui sont venus, si vous voulez, renforcer les paramètres qui existaient au préalable. Et cela a baissé d'une manière un peu plus forte le taux d'endettement. Voilà, ça veut dire qu'on peut encore s'endetter. On était à 50, on est passé à 49. Mais qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas passer à 42 après? Alors, si vous vous arrêtez, parce que pour vous, vous avez peur de l'endettement, alors que celui-ci commence à baisser, et pourtant vous n'avez pas arrêté votre niveau de gestion de l'économie nationale, cela veut dire que vous avez perdu. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas le feu à la maison, comme dirait l'autre. Et nos politiques économiques et financières sont cohérentes, je l'estime, et elles nous donnent des résultats satisfaisants. On n'est pas encore au stade où on doit dire que est-ce qu'il faut arrêter l'endettement. Arrêter l'endettement Mais c'est arrêter aussi l'investissement. Arrêter l'investissement, c'est arrêter la variation positive de la production nationale. Le taux de croissance dont on a besoin, on ne l'aura plus.
On n'aura plus. En tout cas, on espère toujours avoir ce taux de croissance pour le bonheur des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? En tout cas, merci à vous, M. Faustin Onozon, pour ces éclairages. Comme on le dit, on ne plaide qu'aux riches. C'est parce que la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays sur qui on peut compter et qu'il reçoit encore des crédits, on peut le dire ainsi.
Tout à fait.
En tout cas, merci à vous, M. Faustin Onozon. Je vous rappelle que vous êtes expert en économie, en intelligence économique. Merci à vous encore une fois.
Merci à vous aussi.
Tendance de la bourse.
Nous sommes toujours avec M. Kouaho. M. Kouaho, bonjour.
Bonjour, M. Kouma.
Nous intéressons donc à la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, qui est une bourse sous-régionale. Mais alors, c'est une structure privée ou publique?
C'est une structure privée. Bon, en fait, il faut remettre un peu le cadre pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. Les États ont exprimé la volonté qu'un marché financier soit créé pour justement faciliter la levée de fonds des acteurs de la zone, donc que ce soit les États eux-mêmes ou les entreprises. Donc cette mission-là a été donnée et des structures ont été créées. Quand je disais tout à l'heure que ce sont des structures privées, en fait c'est en opposition au fait que ce n'est pas des fonctionnaires qui sont là-bas, au sens strict. Donc ce sont des institutions séparées, des institutions financières, donc qui ont mandat de travailler sur cette question-là. Donc à l'intérieur de ce marché-là, on distingue le régulateur, les structures centrales et les intervenants commerciaux. Le régulateur s'appelait CREPMF, Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers. Aujourd'hui, c'est l'Autorité de Régulation des Marchés Financiers. Donc, c'est la même structure, ils ont juste changé de nom. Donc, le CREPMF a ce rôle de gendarme là, pour veiller à ce que chaque acteur dans le système financier joue son rôle. Donc, la BRVM, la Banque de Règlement Dépositaire Central, les SCGI, ainsi de suite. Donc, il y a un ensemble d'acteurs. Il y a un règlement intérieur que vous pouvez retrouver sur le site de la BRVM. Et la structure qui est chargée de veiller au respect de ces règles-là, c'est elle qu'on appelle le CREPMF. Donc, à côté du régulateur, si vous voulez vous représenter ça, c'est comme un triangle, le régulateur est en haut. En bas, il y a deux structures qu'on appelle les structures centrales. La BRVM, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, c'est l'organe qui est chargé d'animer le marché, donc d'être le cadre dans lequel les transactions ont lieu. Donc la BRVM crée un système informatique auquel les SGI sont connectés et elle reçoit les ordres de bourse transmis par les clients. L'exécution se fait de façon automatique grâce à l'informatique. Et en fin de journée, elle édite un bulletin qui reprend toutes les transactions de la journée, qu'on appelle bulletin officiel de la cote. Elle va présenter aussi les informations émanant des émetteurs. Donc, lorsqu'une entreprise présente ses résultats, lorsqu'une entreprise annonce son dividende, souvent on pose la question, mais coach, comment faire pour savoir qu'une entreprise a réalisé tel profit ou va payer tel dividende? C'est dans le bulletin officiel de la cote. Quand vous tirez ce bulletin pour une journée, vous avez tous les dividendes annoncé en même temps, vous avez tous les dividendes déjà payés. Ils reprennent ça dans des tableaux. Maintenant, quand il s'agit de la performance réalisée, là, ça sort sur un seul jour. Donc, si une entreprise a déclaré aujourd'hui qu'elle a fait un bénéfice, vous ne reverrez pas ça dans le bloc des jours suivants. Donc, il faut tenir soi-même des tableaux pour avoir ces informations-là. Ça, c'est le rôle de la BRVM. La BRDC, c'est la Banque de Règlement et Dépositaire Centrale. Donc, c'est deux structures, en fait, mais en une. Deux rôles, si vous voulez, mais en une seule structure. La Banque de Règlement, son rôle, c'est de rémunérer les investisseurs. Donc, les fonds, intérêts, dividendes et autres, sont versés par les entreprises ou par les États à la Banque de Règlement, qui réceptionne et qui ventile dans le système à chaque investisseur pour qu'ils reçoivent ces fonds aux dates annoncées. Le dépositaire central, c'est un peu comme la banque centrale des titres. Les titres aujourd'hui sont dématérialisés. Donc quand vous achetez une action, vous n'avez pas l'action papier comme vous l'aurez avec un e-commerce. Donc on dit souvent les SGI sont des intermédiaires, mais un intermédiaire est censé acheter un bien et venir te le livrer. Alors que dans le cas des marchés financiers, c'est comme l'intermédiaire achète le bien et puis tu as une information. Bon, cette information-là, ce titre de propriété dématérialisé-là, est comme stocké auprès du dépositaire central. Donc chaque jour, les échanges ont lieu et lui, il répercute dans les différents livres des SGI, dans les différents livres des clients. Donc chez aucun investisseur, vous ne verrez d'action. On a des comptes titres dans lesquels nos titres se trouvent et l'ensemble des titres dématérialisés sont stockés au niveau du dépositaire central. En bas, on a maintenant les intervenants commerciaux. On distingue les conseillers en investissement, les apporteurs d'affaires, les SGI, les gestionnaires de patrimoine, ainsi de suite. Les intervenants qui sont plus stratégiques dans le cadre de l'initiation qu'on fait, ce sont les SGI. Donc quand quelqu'un veut investir en bourse, il va se rendre vers les SGI, dont le rôle premier, c'est faire l'intermédiation entre les investisseurs et le marché financier. Donc, en allant vers ces structures, vous allez ouvrir les comptes titres dont on parlait tantôt et déposer vos ordres de bourse. Les SG vont les transmettre auprès de la BNVM pour exécution et vous aurez des retours. Ce sont ces mêmes SG qui vont vous tenir informé de votre relevé de compte, du paiement de dividendes et autres. Voici un peu comment est organisé le marché financier. Et en cas de problème avec toutes ces structures-là, vous pouvez en référer au Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers. Quelqu'un pourrait dire, par exemple, et si on ne paye pas les dividendes, et si on ne paye pas les intérêts?
Justement, j'allais poser la question parce qu'on peut se retrouver à une SGI qui est un peu défaillante. Et alors, j'ai mes titres et puis je ne suis pas payé.
Si vous prenez le rapport du CREPMF, vous verrez qu'il y a des missions d'inspection auprès des SGI. Et c'est vraiment intéressant de savoir que par derrière, il y a vraiment ce travail d'inspection. Comme je dis, il y a des règles dans le marché. Donc, la moindre des choses, quand quelqu'un place son argent, si la société a annoncé un dividende et l'a payé, c'est que lui reçoit son argent. Donc, effectivement, même s'il n'y avait pas de régulateur, ça allait s'imposer d'évidence même. Et effectivement, il y a un qui va faire ce travail d'inspection-là. Mais si, au final, tout au long de l'année, ils ne se sont pas rendus compte, vous pouvez toujours faire un gentil courrier pour transmettre.
Comme quoi, les indélicats sont surveillés par donc, ces structures que vous avez citées, M. Kouaou. Merci à vous pour toutes ces informations. On se retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.
Merci à tous les auditeurs et rendez-vous la semaine prochaine.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.